9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
AVS à votre santé, on fait un tarif de groupe ce matin. Ils sont deux influenceurs santé à être avec nous. Sophie The French, radiologiste. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Philippe.
26 ans interne depuis un an, vous partagez votre quotidien sur Insta et ça fonctionne.
Ça va.
Ça cartonne. Combien vous avez d'abonnés?
Là, je suis à 27 500.
Waouh. Et alors, c'est tous des personnels de santé ou c'est aussi
des gens
qui s'intéressent à la santé?
Bah, c'est un peu des deux, mais je pense qu'il y a pas mal d'internes. Je dois avoir entre 8000 internes en médecine, enfin 8000 étudiants en médecine qui me suivent, des internes, des externes. J'ai des médecins qui me suivent aussi. Et après, j'ai des ostéopathes, j'ai des kinés, des aides-soignantes, des infirmières, des manipulateurs radio. Et après, c'est des gens des moldus, comme on dit.
Des moldus, bien. À côté de vous, c'est monsieur ostéopathe qui est là. Bonjour Bilal.
Bonjour Philippe.
Bilal M. Mastri, vous êtes ostéopathe à Gennevilliers. Vous aussi, vous partagez votre quotidien sur Insta.
Voilà, un peu.
On commence à avoir un petit peu l'impact que vous avez, vous, les influenceurs santé.
Très important.
Voilà, sur l'ensemble de la société.
Et il faut.
Vous penchez ce matin sur une pathologie qu'on croit bien connaître, que vous allez démystifier, c'est l'hernie discale. Deux, qui c'est qui nous définit ce que c'est qu'une hernie, même si elle n'est pas discale?
Alors, une hernie, c'est une protrusion, on va dire, c'est un organe, un tissu qui va s'échapper de sa cavité, où il devrait normalement être. Voilà.
D'accord.
Pour imaginer un peu le truc. Ouais.
Et au niveau du rachis, du coup, une hernie discale, ça va être parce qu'en fait, au niveau du rachis, on a plein de vertèbres qui sont entre plein de petits coussins qu'on appelle les disques, qui servent d'amortisseurs pour les chocs. Et en fait, une hernie discale, comme il l'expliquait, c'est quand le disque va sortir de son endroit naturel et il va du coup aller dans le canal. Dans le canal lombaire, dans le canal rachidien, et c'est du coup, ça peut être une cause de douleur, mais ça peut être asymptomatique aussi. C'est pas toujours symptomatique.
On n'a pas forcément mal.
Exactement.
Et on n'a pas forcément mal au dos.
C'est ce qu'on va expliquer. Surtout aujourd'hui, qu'une hernie discale, c'est pas forcément la cause d'une douleur. On va essayer de démystifier un peu cette chose qui est bien ancrée encore dans la tête de certains, certaines. Et on va expliquer pourquoi c'est pas forcément lié à une cause de douleur.
J'ai cru que c'était un truc de vieux, moi, ça, la hernie discale.
Pas du tout, ça commence dès 20 ans. Hein. Ça peut commencer entre 20 et 30 ans. Ouais.
Mais moi, j'en ai, des petites.
D'accord.
Pourtant, j'ai pas forcément mal au dos. Là, la question.
Alors, quelles sont les causes de la hernie discale? Est-ce qu'on arrive à les expliquer?
Souvent, c'est dû à, ça peut être dû à un traumatisme, un effort. Quand, par exemple, on va porter une charge lourde, quand on va tomber. Et aussi, ce qui est important, c'est qu'il faut prendre en compte le facteur socio-culturel, parce qu'on s'est rendu compte que c'était les patients qui étaient le plus souvent insatisfaits dans leur travail, qui se retrouvaient à avoir des maux de dos, des rachis, des radiculalgies ou des rachialgies.
Exactement.
Il faut faire la différence entre les deux aussi.
Il y a plusieurs causes. C'est vraiment, comme elle a dit, dans les cas les plus graves, ça peut être des accidents, des chutes, quelqu'un qui porte une chose très, 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 très lourde. Mais après, c'est une chose qui est tout à fait naturelle dans le vieillissement, en fait.
Aussi.
Notre corps, en fait, il vieillit, c'est de la dégénérescence. Donc, en fait, on est voué à avoir ces hernies parce que les disques, on n'a pas des disques de quand on avait 5 ans, 10 ans, etc.
Ils se déshydratent avec le temps, en fait.
Voilà, c'est ça. C'est des disques, il est fait à combien de pourcentage d'eau? Je crois plus de
90%. En tout cas, le centre, c'est de l'eau. Enfin, c'est un milieu qui est assez hydraté. Et autour, il y a une sorte de ligament, l'annulus fibrosus, qui est autour.
Comme un oignon.
Et voilà, exactement, c'est comme un oignon. Et ça le maintient, en fait. Et avec l'âge, ça se déshydrate. Donc, vers 60-70 ans, moins en moins hydraté. Et en fait, il va y avoir des sortes de ruptures de l'annulus fibrosus. Et il va y avoir des petites protrusions du coup du centre qui était hydraté dans le canal rachidien. Et parfois, ça peut toucher une racine nerveuse. Et c'est dans le cas où ça touche une racine nerveuse que ça peut faire mal.
On parle beaucoup de prévention aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait prévenir ce vieillissement des disques ou ça, c'est inéluctable?
Bien sûr, on peut prévenir, mais après, ça reste une chose, comme on le dit toujours, c'est une question d'hygiène de vie, je pense. Bien sûr que les hernies discales, des fois, c'est asymptomatique. Ça peut venir comme ça, on ne sait pas pourquoi, la preuve, j'en ai, forcément, et je pense avoir une bonne hygiène de vie. Mais le plus important, c'est d'avoir une bonne musculature, des bons muscles, d'accord? Parce que c'est ça qui va maintenir, la colonne. Des contraintes qui va aider quand vous allez porter quelque chose de lourd, plus vous avez de muscles, plus vous allez être solide en portant la chose et la colonne va prendre le moins de poids possible sur elle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on peut prévenir avec une bonne musculature, déjà une bonne posture, même si j'aime pas trop ce terme de posture, mais c'est vrai qu'il faut faire très attention à comment on porte des choses, avoir le dos bien droit, essayer de faire le maximum de squats quand on veut porter quelque chose. Donc c'est comme ça qu'on aide aussi.
Exactement. Mais en fait, l'activité sportive, c'est paradoxal parce que ça peut être protecteur et à la fois facteur de risque. C'est-à-dire que c'est les micro-traumatismes répétés. Une activité sportive avec plein de micro-traumatismes répétés, ça peut être un facteur de risque. Mais en revanche, si on se muscle bien le dos et qu'on apprend à porter les charges dans une bonne posture, et ben, comme il le disait, ça peut du coup éviter
l'événement déclenchant. Toujours dans la mesure.
Et le tabagisme est un facteur de risque aussi.
Pourquoi est-ce que vous n'aimez pas le mot posture, hein, Bilal ?
Bah, parce que j'aime pas que les gens se disent il faut que j'ai une bonne posture. D'accord ? Il n'y a pas vraiment de bonne posture.
Et là,
en fait,
vous voyez Sophie qui se redresse au mot posture, clac.
Mais c'est ça que j'aime pas en fait. C'est pour ça, j'aime pas les gens qui se redressent. Parce qu'en fait, les gens qui vont essayer de se redresser, ils vont demander à leurs muscles de créer une contraction, un effort, et la personne ne peut pas rester comme ça éternellement droit. Au contraire, elle va être comme si elle était en gainage, et elle va créer de la contraction qui va la fatiguer, ça va l'épuiser, et au final, c'est pas rentable. Vaut mieux faire du sport, muscler son dos, tu tiendras naturellement droit, en fait. Pourquoi se forcer alors que tu peux faire muscler, avoir un dos ultra musclé et tenir droit naturellement, tu vois? Et après, tu peux rester avachi, c'est pas un problème. Du moment, en fait, il faut toujours bouger de position. Rester droit tout le temps, c'est pas bon. Rester avachi tout le temps, c'est pas bon. Faut que ton dos bouge le maximum possible. Le mouvement tout le temps.
Alors, quels sont les premiers symptômes qui doivent nous alerter et nous faire peut-être suspecter ou soupçonner une hernie discale?
Eh ben, il est là le plus gros problème, c'est qu'il y a pas de symptômes. Il faut pas s'inquiéter. En fait, je vais expliquer un truc très simple. Désolé, je prends un peu la parole, mais en gros, dans la plupart des cas, ce qui va arriver, et il y en a énormément de gens à qui ça arrive, une personne va faire un déménagement, va faire, je sais pas moi, du sport, va avoir un traumatisme, va tomber, va faire un faux mouvement, comme on appelle ça, et il va se bloquer le dos. Ça arrive à énormément de monde, un lumbago, vous savez, le genre de douleur où on croit qu'on va mourir, on est à quatre pattes, on peut plus bouger, la personne va être dans un état critique, va se dire tellement ça fait mal que c'est sûr qu'il s'est passé quelque chose dans mon dos, entre mes vertèbres, une vertèbre a bougé ou je sais pas quoi. C'est normal, ils vont aller voir le médecin, c'est ce qui arrive. On va voir un médecin. Le médecin, bon.
On fait pas toujours une radio, hein, faut savoir.
Toujours une radio.
La radio, c'est pas systématique.
Bien sûr, c'est pas systématique. Mais il est là le problème. Mais je pense que certains médecins, sous la pression du patient, et c'est normal. Parce que le médecin, s'il explique que voilà.
Mais le problème, ça se trouve, moi, je vais voir, si jamais on fait une radio à tout le monde, si ça se trouve, moi, je vais voir des hernies discales, mais qui sont peut-être là depuis avant l'épisode.
C'est ça le problème.
Et qui ne faisaient pas de bruit.
Et
pas mal.
Et qui ne sont pas expliqués, du coup, par l'épisode actuel.
Exactement.
Mais il faut pas confondre le lumbago avec la lombosciatique. Le lumbago, c'est une douleur isolée du rachis lombaire. La lombosciatique, c'est quand, justement, on a une atteinte à la fois du rachis lombaire et ça irradie dans le membre inférieur. En fonction de la racine qui est touchée, L5 ou S1, et ça va du coup donner une douleur dans la jambe, qui descend dans la jambe.
L5 et S1, c'est en bas ou en haut ?
En bas.
C'est en bas.
C'est la L5, c'est la dernière racine lombaire, et S1, c'est la première racine sacrée, donc c'est vraiment le bas-bas du dos. Mais en gros, ça irradie dans la jambe.
Et c'est ça qui est à l'origine de ce qu'on appelle les sciatiques.
Exactement. Et la sciatique, du coup, ça va être des fourmillements, des décharges électriques, parfois même, on peut avoir des hypoesthésies, c'est-à-dire on sent plus trop son membre inférieur, et en fonction du trajet de la douleur, on peut savoir si c'est la racine S1 ou L5 qui est touchée.
Mais du coup, il est là le problème. C'est qu'en gros, il y a des patients qui vont forcer leur médecin à leur prescrire une radio. Donc leur médecin, au début, ils savent qu'en fait, c'est que musculaire, ce lumbago-là. C'est un problème de muscle. Il n'y a pas forcément d'hernie, etc., qui pose problème. Mais bon, pour leur faire plaisir, voilà, ils vont leur donner une radio à faire sous la pression. Et ces personnes-là vont aller faire une radio. Et comme par hasard, on va découvrir quoi ? Dans la majorité des cas, on va découvrir une hernie. Et donc, du coup, c'est là où on va mettre la cause sur l'hernie. Et là, le patient direct va se dire, putain, j'ai une hernie, c'est la cause de mes douleurs, je me suis créé une hernie.
Voilà, c'est ça. Ça devient quelque chose de psychologique, c'est ce que j'expliquais. C'est qu'il y a les facteurs psychosociaux qui jouent énormément. Et qu'en général, c'est les personnes qui sont seules, qui sont isolées, qui vont pas bien dans leur vie, qui ont des insatisfactions au travail. Ça a été prouvé comme facteur psychosocial
ça jouait en plus.
Qui joue, ouais.
Ouais, ouais. Mais ces personnes-là, si elles avaient fait une radio, je sais pas, moi, 6 mois avant, quand elles étaient au top de leur forme.
La même.
Vous aurez trouvé
la même chose.
Dans 90% des cas, une hernie aussi. Ouais. C'est ça le truc.
Alors, donc Bilal, qu'est-ce qui explique dans ce cas-là la douleur ?
C'est ça, la douleur, elle est multifactorielle. Elle est multifactorielle. Dans le cas du lumbago, c'est dû à une contraction musculaire, d'accord ? On est sur un effet qu'on appelle de poutre composite. C'est quoi ? C'est qu'en gros, vous allez faire un mouvement que votre corps va pas bien comprendre, il va avoir peur, et vous allez avoir des muscles qui vont avoir un réflexe, qui vont se contracter, qui vont tétaniser pour protéger cette colonne lombaire. Ils vont se dire, oula, en fait, c'est comme l'accident de voiture, si vous voulez. Vous savez, quand vous avez un accident de voiture, votre tête fait un avant-arrière, une flexion-extension ultra rapide.
Le coup du lapin.
Le coup du lapin. Vos muscles n'ont pas le temps de comprendre ce qui se passe, de réagir. Ils ne se prennent pas la tête. Contraction sans vous demander votre avis. Et ils vont venir tenir toute cette colonne pour la protéger. Dans le bas du dos, c'est pareil.
Donc, c'est un réflexe du corps, finalement.
C'est un réflexe protecteur du corps. Ils vont pour protéger. Et souvent, ces lumbagos-là, ces très, très fortes douleurs, elles arrivent dans 95% des cas quand une personne elle est très stressée, très anxieuse, très fatiguée, très énervée. Moi j'appelle ça des facteurs X, parce qu'il y a des gens ils vont éternuer, faire un faux mouvement, porter une poubelle, ils vont se bloquer le dos. Mais on éternue tous les jours, on porte des poubelles tous les jours, pourtant on se bloque pas le dos. Mais si cette personne est dans un état ultra stressant en ce moment à cause du travail, ultra anxieuse, etc., il y a de fortes chances que si elle fait un mouvement ou un faux mouvement, qu'on appelle ça, qu'elle se bloque le dos. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ces
Faut pas que les gens aussi comprennent mal, c'est que la hernie discale peut être asymptomatique, comme elle peut être symptomatique.
Il y a des hernies qui font mal.
Voilà, c'est ça.
Et des hernies qui font pas mal. Alors comment on arrive à faire la différence entre celles qui font mal et celles qui font pas mal?
Par exemple, moi, j'ai parfois des patients qui viennent pour des douleurs qui sont chroniques, c'est-à-dire qui durent. On fait des imageries en général quand les douleurs sont chroniques, quand elles durent plus de 3 mois, et qu'elles ont résisté à un traitement antalgique usuel. Donc le traitement de base, normalement, c'est des anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS, qu'on donne en aigu, quand c'est aigu. Si ça marche pas et que ça dure plus de 3 mois, on va conseiller du coup d'aller voir un kiné, un ostéopathe pour faire de la proprioception, pour refaire fonctionner le corps, les muscles. Donc voilà, ça c'est les ostéopathes et les kinés sont sollicités.
C'est le protocole classique prise en charge d'un mal au dos, c'est ça que ça veut dire.
Quand ça dure plus de 3 mois. Et dans ce cas-là, on va recommander de faire une imagerie. Donc, on peut commencer d'abord par une radio, puis faire plus ou moins soit un scanner, soit une IRM. Et en fait, parfois, au scanner ou à l'IRM, on voit des hernies qui sortent du disque et qui touchent le nerf. On les voit à l'IRM ou au scanner. On voit que ça touche le nerf et on se dit, bon, en plus que le patient est mal dans sa racine L5 ou S1, on voit le disque qui touche le nerf S1 ou L5 du même côté. Mais voilà, c'est...
Donc, ça pourrait expliquer la douleur touche le nerf.
Ouais. Mais il faut savoir aussi que l'hernie se résorbe avec le temps. C'est-à-dire qu'une hernie, quand elle a migré, elle peut disparaître.
D'elle-même.
Elle peut disparaître d'elle-même. C'est un processus physiologique.
Dans 70% des cas, qu'elle se résorbe. Après, ce pourcentage, il me paraît un peu haut, mais il paraît qu'elle se résorbe. En gros, votre corps va avoir cette petite... En fait, une hernie, il faut imaginer comme vos vertèbres, c'est des assiettes, une pile d'assiettes. Et entre chaque assiette, vous allez avoir de la pâte à modeler. Et cette pâte à modeler va permettre d'amortir en fait les contraintes de la vie de tous les jours. Si il y a un peu trop de contraintes comme avec le poids, etc., si vous appuyez sur deux assiettes où il y a de la pâte à modeler entre les deux, il va y avoir une petite boule qui va sortir. Et c'est ça l'hernie. Et des fois cette hernie, si elle sort d'une certaine direction, elle peut toucher un nerf. Si elle touche un nerf au niveau d'L5, ce nerf, on l'appelle le nerf sciatique. Si cette boule, cette hernie va toucher le nerf, on va appeler ça une sciatique. Ok, on est d'accord, je ne sais plus pourquoi je parlais de ça.
C'est L5 et les racines du nerf sciatique, c'est L5 et S1, à différencier des cruralgies qui sont les racines L3 et L4. Voilà. C'est tout.
En gros, c'est ça une hernie. Et si ça crée une sciatique, on va la sentir dans toute la jambe. Et ça peut créer des très, 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 très grosses douleurs. Et du coup, voilà pourquoi, parce que cette boule qui sort, voilà, c'est pour ça que je parlais de ça.
Sur la pâte à modeler. Voilà. Donc cette boule qui sort.
Du coup, le corps va voir ça comme un corps étranger. Et donc, il est dit qu'en gros, le système immunitaire va venir...
La phagocytose.
Clignoter un peu.
Dès qu'il y a un corps étranger, il y a les cellules phagocytaires dans le processus physiologique.
Celles qui mangent, c'est ça?
C'est ça. Ouais. C'est des petits macrophages qui adorent à manger.
Exactement.
C'est les cellules boulimiques.
Qu'elle se résorbe, quoi. Parce qu'en gros, elle va venir... Enfin, normalement, pour vulgariser un peu le truc, c'est un peu ça.
Donc, en cas de douleur, vous conseillez la radio ou pas? Ou dans quel cas vous la conseillez, l'imagerie?
L'imagerie, je la conseillerais quand ça a résisté aux antalgiques usuels, c'est-à-dire les anti-inflammatoires non stéroïdiens. On a une douleur aiguë, parce qu'en général, la sciatique, c'est une douleur qui commence brutalement, c'est une douleur qui est mécanique. Mécanique, ça veut dire qu'elle est déclenchée par un effort, qu'elle est plutôt diurne, c'est-à-dire la journée, que le patient, quand il est allongé, il a plus mal, ça ne le réveille pas la nuit. C'est à l'opposé à une douleur inflammatoire. Et du coup, dans ce cas-là, on donne un un traitement par anti-inflammatoire non stéroïdien. Et si la douleur devient chronique et que ça dure plus de 3 mois, alors on va faire des explorations complémentaires pour être sûr que c'est pas une autre cause, pour rechercher la cause en fait.
Moi je dirais même en plus de si la douleur, si la personne a des coups de jus qui descendent vraiment jusqu'au talon ou à l'orteil, pas des coups de jus qui descendent jusqu'au genou, vraiment jusqu'au talon ou à l'orteil, ou des paresthésies ou surtout des pertes de force.
Alors paresthésie pour tout le monde,
c'est tout ce qui est fourmillement,
décharge électrique,
sensations, oui voilà. Et surtout une perte de force. Si la personne sent que voilà, elle sent que sa jambe flanche, ça c'est sûr qu'il faut aller voir un médecin et essayer de faire des radios au plus vite pour voir. D'ailleurs, pas forcément des radios.
On commence par la radio en général, puis après on fait le scanner ou l'IRM. Ça dépend.
Bon, opérer ou pas la hernie, on en parlera dans un instant. Peut-être que vous avez des questions à poser. Ça vous concerne, la hernie. Vous appelez le standard Beurre FM 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
On parle de la hernie discale ce matin, mythe et réalité. Une radiologue et un ostéo vous disent tout. La crème de la médecine, comme le dit Bilal Laurentaine, c'est Sophie the French radiologiste. Et puis la crème des ostéopathes, c'est Bilal Mnasri. Alors on parlait de la sciatique tout à l'heure, mais on parle vraiment aujourd'hui de la hernie dite discale. Dans quelles conditions, quelles sont les indications à l'opération?
C'est quand on a, dans le cas de l'urgence, c'est une sciatique grave paralysante, c'est-à-dire une sciatique qui va être hyperalgique, c'est-à-dire la douleur elle est insupportable, paralysante, le patient ne peut plus bouger, il a un déficit moteur inférieur à 2 sur 5, c'est une échelle qu'on utilise pour coter le déficit moteur. Et dans le cas où on a des signes de syndrome de la queue de cheval, donc c'est par exemple on ne sent plus ses fesses, au niveau de la région des fesses, on ne sent plus rien.
Le syndrome de la queue de cheval.
Ouais, la queue de cheval. On a une incontinence urinaire ou fécale. En fait, ça, c'est des signes d'urgence qui vont dire, quelqu'un qui arrive comme ça aux urgences, c'est bloc opératoire en urgence. C'est ce qu'on appelle la sciatique grave paralysante. Mais c'est rare.
C'est très très rare.
Enfin, c'est pas très très rare, mais
ça arrive. Il y en a quand même. Mais c'est pour ça qu'il faut faire très très attention. C'est vrai qu'il y a des patients qui viennent qui ont ce genre de sciatique qui est très paralysante. Et il faut pas non plus jouer avec ça. Si ces personnes ont déjà tout essayé avant, ouais, l'opération est indiquée. Au contraire, ils vont avoir peut-être une meilleure vie après. Il faut toujours calculer un peu le bénéfice-risque. Ils ont plus à perdre à rester avec leur sciatique paralysante que de se faire opérer. Après, voilà, l'opération, maintenant, ils en font de moins en moins en moins.
Parce qu'on a beaucoup opéré à une époque, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas les résultats escomptés.
C'est ça, c'est qu'il n'y a pas de concordance radioclinique, encore une fois. Donc, ce n'est pas parce que monsieur ou madame a une hernie discale que sa sciatique est due à cette hernie discale.
Ou son mal de dos. Parce
qu'il y a plein de causes de sciatique aussi.
Voilà. Non, il y a plein de causes de sciatique. Et donc, comme on a dit tout à l'heure, une hernie discale, c'est une hernie de base, ça fait pas mal. L'hernie, elle fait mal quand elle commence à toucher un nerf, ce qu'on appelle une sciatique. Mais une sciatique ne peut pas être forcément que due à une compression du nerf sciatique par une hernie discale, d'accord ? Une sciatique, ça veut juste dire compression du nerf sciatique, mais elle peut être causée soit par une compression au niveau d'une hernie discale, au niveau d'L5 S1 par exemple, ou par un muscle sur son trajet. Le plus souvent au niveau des fessiers, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont dire voilà, j'ai une sciatique, mais j'ai pas mal au dos. Ils vont te dire voilà, j'ai une sciatique, mais j'ai un point très précis au niveau du haut de la fesse. D'accord ? Ça, c'est des pathologies qu'on peut soigner. D'accord ? Il n'y a pas besoin de se faire opérer, ça se soigne. Je soigne ça des fois en une séance, deux séances, c'est bouclé, on n'en parle plus. Alors que la personne, elle pensait qu'elle était dans un état critique, etc. Pareil, il faut des étirements, du massage, voir des kinés, faire du renforcement musculaire, etc. Une personne qui a mal au dos ou qui a une hernie, il faut au contraire qu'elle essaye tout ce qui est non-invasif, qu'elle fasse du renforcement musculaire, du sport, de la kiné, de l'ostéo, avant de penser à l'opération.
À l'opération. On accueille Fares, qui est au 01 53 48 3000. Fares, vous êtes le bienvenu sur Beurre FM.
Bonjour Philippe.
Bonjour Fares.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Alors bonjour Sophie, bonjour Bilal.
Oui. Voilà, bonjour à tout le monde et bonjour à la femme en général. Bon, c'est pas pour moi en fait, c'est pour ma femme. Elle a fait un IRM samedi. Ils ont découvert qu'elle a un hernie discale sur le L5 et L4.
Mm-hmm. Ok,
et,
très bien.
Et là en fait, elle a la douleur sur tout le côté droit en fait. Ça commence du dos et jusqu'au pied.
Exactement, bah, c'est le trajet de la sciatique.
En fait, elle a même le, elle a, d'ailleurs, le genou s'est gonflé, ça devient bleu. Je sais pas si c'est situé à ça ou pas.
Peut-être pas. Peut-être
non, ça n'a pas de rapport.
Je pense pas que ça a de rapport.
Ça n'a pas de rapport.
Non, non. Il n'y a pas de rapport entre le. Non.
Bah, du coup, votre femme, il faut qu'elle essaye de faire un traitement qui est classique. D'accord. Qu'elle prenne des antidouleurs dans un premier temps, peut-être après faire de l'ostéo, de la kiné, du renforcement musculaire. Là, elle doit être dans une période qui doit être très aiguë, mais il faut qu'elle essaye de. Comme on a dit tout à l'heure, c'est pas parce qu'elle a une hernie que voilà, c'est voué à l'échec et qu'elle va avoir mal toute sa vie.
Non, moi je pense pas à ça parce que j'ai mon frère qui a eu le même cas, il est en train de se soigner avec les kinés, là ça va mieux.
Non, voilà.
Et elle commence à paniquer et tout.
Il faut qu'elle prenne des anti-inflammatoires non stéro. C'est une hernie, en fait, il faut savoir quand est-ce, depuis quand elle a mal.
En fait, c'est à peu près, ça commence à peu près au moins 15 jours de ça. Comment aller
voilà. Ça a commencé il y a 15 jours, donc c'est encore dans le stade aigu. On dit que la douleur, elle est chronique quand elle dure plus de 3 mois. Là, c'est juste le stade aigu. Donc, il faut qu'elle prenne des anti-inflammatoires non stéroïdiens, des INS, donc ibuprofène ou choses comme ça. Ouais. Si elle n'a pas d'autres traitements en cours aussi. Enfin, en fait, vous voyez avec un médecin.
Non, elle n'a pas du tout de traitement.
De base, elle ne prend rien.
D'accord. Non, elle ne prend rien, non. Pas du tout.
Ce que Sophie est en train de vous dire, c'est qu'il ne faut pas paniquer.
Voilà.
Ah, exactement. C'est pas parce qu'elle a une hernie que c'est... Oui, voilà. Mais il faut qu'elle aille voir son médecin. Son médecin va bien la rediriger, va peut-être lui prescrire des séances de kiné, etc. Et ça va soigner très facilement.
Bah écoutez, je vais lui conseiller, moi, je vais lui prendre rendez-vous avec le kiné ou via mon frère là-bas. Il m'a dit c'est un bon kiné.
Ouais, vous êtes des bons conseils.
Et on va partir, on verra.
C'est le kiné de famille, Fares.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Avec plaisir, au revoir.
Merci pour votre question. Bonne route, Fares.
Merci beaucoup, merci.
On va à Valence et Naïma est avec nous au 01 53 48 3000. Naïma, vous êtes la bienvenue sur Beurre FM.
Oui, bonjour.
Bonjour Naïma.
Salut. Oui, moi je vous appelais aujourd'hui en fait, j'ai fait un IRM mais au niveau des cervicales. Hein.
D'accord, cervicales. Donc ça c'est des cervicales LG, ouais.
Voilà, c'est ça. Donc ils m'ont trouvé à l'étage 6-7 D1, pas d'anomalie, mais par contre avec un cervical rétréci.
Mm-hmm. Ah, attendez, vous avez dit quoi? Un canal cervical rétréci? Ouais.
Rétréci,
oui. Ouais, donc ça, c'est
quoi? Disque.
Ok.
C'est 5, c'est 6.
Ok.
C'est 6, c'est 7.
Ok.
Donc, avec sténose foraminale, c'est ça.
C'est ça, ouais.
Mm-hmm. Voilà. Bon, ma question aujourd'hui, en fait, ça fait des années que ça dure, depuis un an.
Et ça irradie dans votre bras? Ou c'est juste au niveau. Vous avez mal au niveau du cou ou ça va dans le bras aussi?
Non. J'ai mal au niveau du bras, j'ai des formements au niveau de la main,
okay.
Des charges électriques.
De quels doigts, vous savez à peu près, les doigts? C'est des doigts précis?
Les deux derniers.
Les deux premiers, en fait, et les deux derniers, hein, donc les
quatre
doigts, en fait. Hein. Et le matin, quand je me lève, j'ai la main engourdie. Et là, les douleurs, ça dure depuis... Parce qu'on a bien expliqué, en fait, en 2018, un canal carpien.
Ouais. D'accord.
Moi, ce que je vous...
Là, aujourd'hui, mon chirurgien ne veut pas m'opérer sans l'avis de neurochirurgien, en fait.
Ouais.
Du coup, il ne veut pas m'opérer.
Elle a peut-être raison.
Et j'ai un traitement aussi qui est difficile parce que j'ai une hernie atale. Donc, il ne peut pas me traiter avec des anti-inflammatoires.
Ouais.
C'est peut-être bon pour vous. Peut-être que vous allez vous diriger vers d'autres... D'autres traitements, peut-être que. En fait, sur quoi il faut réfléchir, c'est que, bon, vous avez des problèmes mécaniques au niveau de tout ce qui est articulaire. Il ne faut pas que vous vous empêtrez dans tout ce qui peut être problème musculaire. Donc, ça veut dire que tout ce qui peut être musculaire, il faut que ça soit au top du top. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez des muscles qui soient tout autour du cou, qui soient très relâchés, que, en fait, vous n'avez pas créé d'autres problèmes en plus des problèmes que vous avez déjà. Vous comprenez ce que je veux dire?
C'est ce qu'il m'avait dit, le chirurgien, il avait peur en fait, de créer d'autres problèmes de ce que j'ai maintenant.
C'est ça. Parce qu'en fait, excusez-moi, ce problème que vous avez, ça va vous stresser, ça va créer des tensions au niveau de votre cou, au niveau de votre trapèze, ça va vous allez devenir anxieuse et tout ça, ça va créer des symptômes psychosomatiques, d'accord? Oui. Et ça va empirer le problème. Donc il faut vraiment. Essayer de travailler sur tout ce qui peut être musculaire, c'est sur quoi vous pouvez travailler à l'heure actuelle.
Oui, parce qu'en fait, j'ai fait du kiné.
Ça fait combien de temps que vous avez ça, madame? Excusez-moi.
depuis 2018.
Ah oui, donc c'est vrai que ça fait bien, ça devient un petit peu chronique.
Oui, oui. Voilà, donc en fait, le kiné, parce que il y a 3 mois, j'ai eu une tendinite à l'épaule, au niveau de l'épaule et du coude. Mmh. Et donc, je fais du kiné et je lui ai parlé en fait de mes cervicales. Je lui avais dit que j'avais un problème des cervicales. Donc, le kiné m'a massé. Et ce jour-là, ça ne m'a pas fait du bien en fait. Mmh. Je suis ressortie du chez de kiné, j'avais encore plus mal.
Ça peut arriver, ça peut arriver. Ça arrive. Après, c'est pas. Si c'est arrivé qu'une fois, si ça arrive tout le temps, bon, il faut changer de kiné. Mais si ça arrive qu'une fois, oui. Si... Mais comme je l'ai dit, il faut vraiment essayer de travailler sur tout ce qui peut être musculaire. Essayez vous-même de vous masser, de vous étirer toute seule, de faire de la méditation, de travailler sur votre respiration. Il y a énormément de choses à faire toute seule déjà.
En tout cas, il ne faut pas rester sédentaire.
Ce qui me stresse en fait, c'est que je ne peux pas avoir bénéficié de cette opération de canal carpien, étant que maintenant je suis en arrêt maladie en fait. Mm-hmm. Donc je ne peux pas travailler.
Ouais.
Et voilà quoi.
Mais c'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment que vous essayiez d'améliorer votre quotidien
Prenez soin de vous.
Voilà, en prenant soin de vous, massez-vous tous les jours, étirez-vous tous les jours. Tant que vous n'avez pas fait ça, vous ne pouvez pas savoir en fait si vous pouvez aller mieux ou pas. Vous comprenez? Si vous ne faites rien, c'est sûr que ça va pas, les choses ne vont pas s'améliorer.
Il ne faut pas rester sédentaire, il faut continuer.
Alors, moi j'ai vu, donc d'ailleurs, je tiens un téléphone dans la main, j'ai complètement la main engourdie. Donc voilà, et je lâche les choses
en fait,
de ma main. Voilà.
Alors, Naïma, écoutez bien ce qu'ils vont vous conseiller tous les deux. Donc, vous avez dit, automassez-vous, si j'ai bien compris, Bilal.
Automassez-vous.
Ça, vous le faites ou pas, Naïma?
Ça, je le fais le matin quand j'ai la masse engourdie. En fait, je me masse tout le temps.
Mais c'est ça le truc. Il ne faut pas attendre que vous ayez. En fait, il faut que ça soit. Il faut le faire. Même quand vous avez pas mal. Si un jour vous avez pas mal, il faut quand même vous masser. Il faut que ça soit quotidien. Il faut que vous soyez votre propre kiné. C'est ça l'objectif.
Et de temps en temps, je m'énerve. En fait, comme c'est là, j'ai pour être vraiment au repos. Mais dès que j'enlève la minerve,
Il ne faut pas mettre de minerve. Il faut que vous soyez en mouvement. Il faut créer du mouvement. Il ne faut pas que vous soyez figé.
Oui. Et le sport, en fait, parce que j'ai pas.
Pareil, le sport aussi. Il faut que vous. Il y a énormément de choses à faire, mais il faut juste se motiver pour le faire vraiment tous les jours, plusieurs fois par jour. Vous êtes en arrêt, il faut en profiter pour faire ça tous les jours. Il faut que vous soyez en combat contre cette contraction qui peut se créer, vous comprenez? Il faut vraiment faire ça. Il faut que, comme je vous dis, vous soyez votre propre kiné, vous pensez à ça tous les jours.
Alors, Bilal, pourquoi vous dites à Naïma qu'il ne faut pas qu'elle porte de minerve, par exemple, pour tous ceux qui écoutent, qui peuvent être surpris, parce que c'est un réflexe qu'on peut avoir.
Bien sûr.
Et pourtant, mon médecin me l'a prescrit.
Il vous l'a prescrit quand vous avez des douleurs qui sont très, très, très aiguës, que ça ne veut pas partir, etc. Mais il ne faut pas que ça devienne une habitude. D'accord? Minerve, au contraire, elle peut vous être plus fatale que bénéfique. Il faut que le corps, il a besoin d'être en mouvement. Vos cervicales, elles ont besoin d'être en mouvement. Plus vous allez être figé, plus vos tissus vont se crisper. D'accord? Il faut absolument que vous créez du mouvement. C'est ça qui va améliorer la circulation sanguine, qui va améliorer les tissus, etc. Mais vous pouvez pas être figé, c'est pas bon.
Bon, Naïma, voilà ce que vous disent Sophie et Bilal. En mouvement, soyez votre propre kiné. Merci pour votre appel. Zakaria, bienvenue sur Beurre FM.
Oui, bonjour.
Bonjour Zakaria.
Donc voilà, moi mon problème, c'est j'ai une sciatique au niveau de L5-S1 depuis très 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 longtemps et ça fait super mal. J'ai le pied engourdi, la main aussi, la main gauche. Donc voilà.
Eh ben, il faut.
Et vous avez fait quoi déjà comme traitement? Qu'est-ce que vous avez essayé de faire pour l'améliorer?
J'ai été en premier temps chez mon médecin traitant, donc il m'a orienté vers de l'imagerie. J'ai fait l'IRM.
D'accord.
J'ai fait tout ce qu'il faut par rapport à ça. Donc, je m'ai trouvé.
Vous avez pris des médicaments au tout début ou pas?
Ouais, les médicaments, j'ai pris ibuprofène. Après, je suis parti sur l'amaline, après Norantin.
D'accord.
L'amaline, Norantin, parce que c'est des douleurs super aiguës. Et des fois, j'ai mon pied qui est engourdi, j'arrive pas à le bouger.
Vous mesurez combien, Zakaria?
Comment?
Vous mesurez combien?
J'ai 1m82.
Et attendez, et la sciatique, ils ont dit. Enfin, l'IRM, ils ont trouvé quoi du coup?
L'IRM, ils ont trouvé un double hernie au niveau de L5-S1.
Alors, c'est quoi une double hernie là?
C'est que c'est deux étages.
Ah, d'accord.
Voilà. Donc, L5, ça me fait super mal. J'ai le pied qui est engourdi. Et là, depuis un an ou deux, c'est le main gauche.
Alors là, c'est au niveau cervical.
Ça n'a pas de rapport avec les lombaires.
Ouais, c'est peut-être au niveau cervical, peut-être que vous avez encore au niveau des vertèbres cervicales un petit disque aussi qui sort, ou ça peut être autre chose. Vous avez quel âge, monsieur?
J'ai 45 ans.
Ouais, donc ça peut pas. Je pense pas que ce soit de l'arthrose dans ce cas-là, mais.
Et je travaille dans le bâtiment. Donc ouais,
c'est ça. Ah voilà.
Vous portez des choses lourdes.
Comment?
Vous portez des choses lourdes?
Avant oui, mais maintenant non.
Et avant vous les portiez comment? Vous les portiez bien?
Avant, comme j'étais en situation irrégulière, j'étais obligé de travailler, donc je portais des trucs super lourds.
Mais on vous a expliqué comment porter les choses, etc.
Voilà. Oui, comment?
On vous a expliqué comment bien porter les choses, bien.
Oui. Là, ils m'ont rien expliqué, mais
c'est de vous-même.
Ouais.
Non, maintenant j'ai pris l'habitude de porter avec mes mains, tout le poids, je porte avec mes mains, quoi. C'est pas avec le poids. Vous voyez ce que je veux dire?
Vous compensez en fait d'une certaine façon.
Il faut utiliser tout son corps pour porter quelque chose. Pourquoi on devrait utiliser que le dos?
Non, les mains. J'utilise que les mains. Le poids, c'est-à-dire le poids,
vous le répartissez.
Voilà, je le répartis sur mes mains, c'est pas sur mon dos. Et même ça fait longtemps que je porte plus le lourd. Je porte maximum 5 kilos.
Oui.
Vous êtes en surpoids?
Non. Je suis 75 kilos.
Parce que ça, c'est un facteur aussi.
Moi, je suis 75 kilos pour 1m82, c'est bien.
Je veux dire en général, parce que ça, on l'a pas trop évoqué tout à l'heure. Le poids, c'est vrai que c'est un facteur dans la.
Avant je faisais 65 kilos, mais depuis que j'ai arrêté de fumer, donc j'ai pris un peu de poids. Donc un tout petit peu.
Lui, c'est pas significatif.
Alors, Bilal, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à Zakaria aujourd'hui?
Alors, tu as toujours le même conseil, c'est d'essayer d'aller voir un kiné, un ostéo, d'essayer de renforcer votre dos. D'accord? Peut-être que vous avez le dos qui n'est pas du tout musclé, peut-être que votre colonne, elle se comprime, elle sur elle-même, il faut essayer de renforcer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est logique, mais il faut essayer de renforcer le dos. Il n'y a rien de mieux pour protéger une hernie. Je sais qu'il y a surtout l'ancienne génération de médecins, il y en a beaucoup, quand ils voient un patient qui a une hernie après une IRM, ils vont lui dire reposez-vous, faites pas de sport, etc. Mais c'est des choses qui ont été prouvées que, en fait, au contraire, ça peut être plus dramatique
de rester sédentaire, il faut faire plus d'activité physique.
Exactement. Au contraire, vous avez une hernie, faites de la musculation. Protégez cette hernie. Musclez-vous pour protéger cette hernie. Au contraire, si vous n'avez pas de muscles du dos, cette hernie va. Vous allez l'impacter quand vous allez faire des gestes dans la vie de tous les jours.
Est-ce que ça vous parle, Zakaria?
Oui, parce que j'ai fait de la musculation. J'ai fait de la musculation il y a 2 ans ou 3 ans.
Ouais.
Mais avec le travail, mais en sachant que je travaille toujours, j'ai pas arrêté de travailler dans le bâtiment, je travaille toujours. Et là, déjà, je suis dans le chantier, là.
Changer de travail, peut-être que ça ira mieux déjà.
Non, j'ai essayé de changer de travail, j'ai fait une formation d'autres choses, mais j'ai pris l'habitude de travailler dans le bâtiment, j'ai pas réussi à.
Mais pour votre dos, peut-être que ça serait mieux.
Oui, mais je fais plus attention maintenant parce que là, je pense que là j'ai arrivé à un stade que, voilà.
Bon.
Musculation. Zakaria à la muscu. En plus, il va y avoir des tarifs en début d'année, c'est le moment de s'y remettre. On parle de la hernie discale et dans un instant, nous verrons les fausses douleurs de sciatique. Bilal, à tout de suite.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, et c'est un sujet et un objet de consultation très fréquent, la hernie discale. On en parle aujourd'hui avec mes deux invités. The French radiologiste, c'est Sophie, qui est là à gauche sur le transistor. Et puis Bilal Mnasri, monsieur ostéopathe. Ostéopathe à Gennevilliers. Et vous êtes là au 01 53 48 3000 à poser vos questions. C'est Ahmed qui est avec nous. Ahmed, bonjour et bienvenue, Ahmed. Alors Ahmed.
Heureux d'abord de te parler, je me permets de te tutoyer parce que il y a tellement longtemps que j'écoute Beurre FM et de te remercier pour tout ce que tu fais.
Bien. Voilà, déjà. Plaisir partagé, Ahmed.
Merci. Et vraiment, c'est en toute sincérité. Qu'est-ce que je veux dire? Je voulais poser une question aux intervenants. Excusez-moi, j'ai pas retenu.
Alors, vous avez Sophie. Sophie, c'est The French radiologiste. Et puis vous avez.
French radiologie, d'accord, ok.
Voilà. Donc, c'est pour la partie imagerie.
Ostéopathe, c'est ça?
Et exactement, ça c'est Bilal Mnasri.
Moi, j'ai eu des gros problèmes faisant beaucoup de sport. Et puis, j'ai été blessé à une jambe, donc je portais sur l'autre pendant longtemps. J'ai été opéré, et puis ça s'est mal terminé. Donc après, à force de pencher sur un côté, puis je voulais pas arrêter, je vais continuer quand même à faire du sport, et j'étais trop excessif, quoi, j'allais dire, je savais pas m'arrêter. Et maintenant, j'ai passé les 70 ans, et du coup, je fais de la piscine parce que je peux plus faire de tennis.
C'est très bien.
Je peux plus rien faire.
La piscine, c'est très bien.
Comme les intervenants, ils parlent beaucoup de renforcement musculaire. En fait, c'est le dos et puis les abdos, quoi. C'est
exactement.
La ceinture abdominale, je pense, c'est ça.
Exactement,
non
exactement, exactement.
Et alors, comment est-ce que la piscine, c'est suffisant? Je trouve que je m'étire beaucoup à la piscine. Mais je trouve que musculairement, je sais pas,
vous avez mis le doigt sur un problème. C'est vrai que pendant des années, on n'a pas arrêté de parler de la piscine, de la piscine, de la piscine.
Sport oui. idéal pour
sport
tout.
Sport idéal ouais. pour tout. Mais oui. la piscine, c'est très dur. Pourquoi c'est très dur? Parce qu'il faut être ultra rigoureux. Faire de la piscine oui. en hiver, c'est ultra dur. Il faut y aller très souvent. Ça travaille oui. tout le corps. Ça travaille oui, oui. chaque partie du corps un peu, mais tout le corps. Mais il faut y aller très oui. souvent pour avoir une très, très, très bonne musculature.
Mais alors, pour le dos, donc, est-ce que c'est suffisant ou pas?
Oui, voilà.
Non, justement, vous pouvez, ça peut être un kiff de faire la piscine. Après, vous pouvez faire d'autres choses. Moi, ce que je conseille, qui est vraiment pas mal, et où on n'a pas, on ne prend pas de poids, comme vous, à 70 ans, par exemple, vous pouvez faire du pilates, qui est je sais pas, on peut appeler ça un sport, mais c'est une activité qui est ultra, ultra, ultra bonne pour le corps, le pilates.
Oui,
c'est une sorte
pilates,
de
renforcement musculaire.
Justement,
de
c'est pas un sport un peu comme vous aimez pas le mot, mais tout à l'heure, j'ai pu l'entendre dire. De posture, ça, non, c'est pas comme...
Non, en fait, c'est de posture. Pourquoi? Parce que ça travaille sur le gainage, mais de tout le corps. Mais c'est très, très intéressant parce que c'est... Vous portez pas de poids, donc vous avez moins de risque de vous blesser, de mal faire un mouvement.
J'ai un problème parce que... Excusez-moi. Parce que j'ai été opéré, moi, du dos déjà. J'avais, je vous dis, avec mon parcours tumultueux, là. On m'a opéré d'un canal lombaire étroit et ça a été très, très difficile.
Bien sûr.
Et j'ai failli rester sur une chaise.
Bien
et on
sûr.
M'a provoqué un déficit à la jambe qui était valide, quoi, parce que l'autre, j'avais eu déjà, elle était esquintée parce que je jouais au foot. Et puis,
c'était le risque.
C'était et donc je perds un peu d'équilibre et du coup le pilate je sais pas si
il faut essayer, mais en tout cas c'est très bien ce que vous faites la
si
piscine.
Vous perdez l'équilibre, faut que vous fassiez des exercices aussi de proprioception.
Exactement.
Que la proprioception, c'est le mouvement de votre membre dans l'espace, que vous oui. appreniez en fait à créer de la stabilité, ouais, voilà. C'est ça, pour ouais, votre ouais. corps.
Alors c'est quoi comme genre d'exercice, parce que déjà le mot merci de le partager avec nous, la proprioception, c'est ça.
Tu montes chez le kiné, quand tu vas chez le kiné, tu montes sur un ballon un peu dégonflé.
Pour t'équilibrer.
Ah,
essayer
oui,
de
d'accord.
rester en équilibre. Bah, ça, c'est des exercices de proprioception. Bah,
avec si vous avez des problèmes d'équilibre, vous pouvez aller voir votre kiné ou votre ostéopathe et voir si, avec lui, essayer de travailler justement ces exercices où vous montez par exemple sur une sorte de petit ballon gonflé. À moitié gonflé, enfin c'est genre un demi-ballon, vous mettez dessus et en fait vous testez on va faire des testings de votre stabilité musculaire et à force de faire ces exercices-là, vous allez réapprendre en fait à retrouver l'équilibre.
Exactement.
Je cherche quelque chose de plus, j'allais dire, traditionnel.
Il n'y a pas de petits efforts, mais en tout cas c'est très très bien ce que vous faites parce que il faut se dire que...
J'avais essayé, il y a un kiné qui m'avait fait faire ça, il me mettait une espèce de planche.
Bien sûr, c'est ça, exactement. Mais c'est pas en le faisant une fois que ça va marcher.
C'est comme au cirque.
Exactement.
J'arrive pas à tenir.
Il faut peut-être le faire plus souvent si vous n'arrivez pas à tenir.
Pardon ?
Il faut peut-être le faire plus souvent si vous n'arrivez pas à tenir.
Non, c'est pas ça. C'est, je vous dis, comme à la suite de ma fameuse laminectomie, là.
Oui.
J'ai perdu et on m'a provoqué un déficit et je tiens pas sur mes jambes droites.
Bien sûr, mais ça peut se récupérer, mais petit à petit. Il faut pas être trop dur avec soi-même et trop dur avec le corps. Il faut y aller petit à petit. Il y a pas de petits efforts.
Ah oui, c'est intéressant ce que dit Billy Alamed. C'est qu'en fait, il dit que finalement, vous allez le récupérer, mais il faut insister, même si ça vous paraît dur au début.
Exactement.
Oui, j'ai compris.
Des fois, vous voyez des gens, ils sont en chaise roulante parce qu'ils ont eu des grosses, grosses opérations et qui arrivent à remarcher au bout de 6 mois, 1 an, mais ils l'ont fait. S'ils n'avaient rien fait, ils seraient restés en chaise roulante.
Oui, mais moi, ça fait déjà 2 ans, hein, plus de 2 ans que j'ai été opéré.
Bien sûr, mais après, vous n'aviez pas un parcours qui était commun, donc il faut le temps qu'il faut.
Je sais bien, c'était difficile. Mais
en tout cas, vous avez fait beaucoup. Il faut voir surtout ce que vous avez récupéré, c'est déjà énorme.
Oui.
Donc, en résumé, la piscine, c'est bien.
Oui.
Mais peut-être qu'il faut rajouter quelque chose. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Sophie et Bilal, et vous avez tout un arsenal de choses que vous pouvez faire.
Le canal lombaire étroit, attention, c'est pas dû à une hernie, c'est dû à de l'arthrose en fait, qui va faire une sténose du canal central. C'est pas du tout un problème de hernie discale ce que vous avez.
Ah, non.
C'est un problème du coup de canal lombaire étroit, donc dû à de l'arthrose, et c'est un rétrécissement du canal central qui va comprimer du coup des racines.
Mais c'est un problème grave aussi, hein. C'est pas négligeable non plus.
Ahmed, en tout cas, merci de votre question. Il y a beaucoup d'appels. On va prendre Swad qui est avec nous. Swad, bonjour et bienvenue sur Beurre FM. Swad, à la une.
Oui. Ah. Oui, bonjour.
Bonjour et bienvenue, Swad.
Merci. Je vous appelle à propos de mes douleurs, parce qu'en ce moment, j'ai le nerf cubital qui me fait énormément mal. Là, en ce moment, j'allaite. J'ai accouché mon bébé, il a 10 mois. Je ne prends pas de médicaments, sauf des vitamines, des compléments alimentaires et Benerva. Je fais des séances de kiné et j'ai énormément mal.
Bon,
toujours.
C'est vrai. En fait, qu'est-ce qui a déclenché la douleur du nerf cubital déjà ? Depuis quand ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
C'est l'allaitement, parce que je ne m'assois pas, je suis souvent allongée. Bon, j'ai un gros bébé, il pèse environ 11 kilos. Donc je le porte pas, je préfère être allongée sur le coude, et la kiné elle m'a dit c'est ça qui a déclenché
C'est fort possible. Faut peut-être trouver une autre position déjà pour voir.
C'est quoi le nerf cubital ? Je vais pas vous faire une conférence dessus, hein.
C'est le nerf.
C'est le nerf en fait, le cubitus.
Chez le neurologue.
Pardon.
Allô ?
Oui, pardon.
J'ai fait des examens et c'est le nerf cubital.
Oui, on a compris, mais en fait on explique qu'est-ce que c'était. On a bien compris, en fait. On explique juste que le nerf cubital, en fait, c'est un nerf qui est, pour les auditeurs, c'est un nerf qui est dans le bras, qui suit le cubitus. Donc, le cubitus, c'est l'ancien nom, en fait, de l'ulna. De l'ulna. En fait, dans le bras, vous avez deux os, le radius et l'ulna, dans l'avant-bras, ouais. Et l'ulna, en fait, donc le cubitus, c'est un os, et du coup, c'est le nerf qui suit le trajet de cet os.
Alors, comment est-ce qu'on peut soulager ces douleurs, monsieur l'ostéo ?
Il va déjà voir la cause du problème. Ça se trouve, c'est pas forcément un problème qui peut être très grave. C'est juste un problème de positionnement. Ça se trouve, vous dormez avec votre bébé, vous le mettez, je sais pas, sur le bras. Peut-être que vous avez, quand vous dormez, vous avez le bras qui est tout le temps levé. Ou quand vous allaitez votre enfant, peut-être que vous le posez énormément sur le coude. Et tout ça va créer des compressions. Et le nerf, il aime pas être titillé comme ça. Donc après, vous allez avoir des petits fourmillements. Donc il faut essayer déjà de changer vos habitudes, voir s'il y a une amélioration. S'il y a une amélioration, c'est qu'on est sur la bonne voie. S'il n'y a pas d'amélioration, il faut essayer d'investiguer d'autres choses. Peut-être, ça peut être une cause musculaire, une cause articulaire. Il faut voir tout ça. Ça se trouve, faut voir. Peut-être même une hernie, une arthrose, on ne sait pas pourquoi ça s'est réveillé. Mais déjà, changer ses habitudes, c'est très très important.
Donc, premier conseil, Nadia, c'est de changer vos habitudes.
Voilà.
Vous dormez le bras levé, vous avez dit ça. Vous avez dit que vous dormez le bras levé ?
Oui.
Voilà, donc déjà ça.
Il se réveille, il réclame plusieurs fois la nuit.
Il faut essayer de changer ces habitudes-là. D'accord ?
D'accord.
C'est très important.
Et voir donc.
Changer de position quand vous dormez. Essayez de plus dormir le bras levé déjà.
C'est très 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 important pour n'importe quel problème de faire des tests soi-même, de s'auto-diagnostiquer, parce que ça vous évite d'aller voir des personnes qui peuvent mal vous diagnostiquer, vous donner des médicaments dont vous n'avez pas vraiment besoin. Et alors que c'est un problème qui est ultra basique.
C'est-à-dire qu'il vaut mieux changer sa position que de prendre des médications.
Faire des tests.
Voilà ce qu'on pouvait vous dire, Swad. Alors, on n'a pas pu prendre tous les appels, il y avait énormément d'appels. On n'a pas pu prendre Nadia qui nous appelle de Londres. Désolé Nadia, mais on est pris par le temps. On reviendra sur ces problèmes de hernie, puisque visiblement ça passionne tout le monde. Sophie, on vous retrouve sur votre Insta, donc, pour tous les fans. Comment ça s'appelle ?
De French Radiologist.
Bilal.
C'est très très intéressant parce qu'elle met souvent des clichés qu'elle voit du coup au travail.
C'est vrai que ça a commencé comme ça, son histoire. Parce que justement, elle voulait partager ses radios.
Exactement, les images de radiologie. Maintenant, je vais sur Google et je vais trouver des images de pathologie quand j'ai des questions ou que je pense que c'est intéressant.
Bien, et Bilal à Gennevilliers. Merci à tous les deux. Première fois qu'on vous réunit, vous retrouvez l'émission sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Demain, c'est Maître Serran qui est avec nous.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.